Moi, j'ai au Kassai oriental. J'ai refusé totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bienvenue à tous, nous sommes ensemble pour plus d'une heure d'échanges et de partages consacrés au diabète. Depuis 1991, le monde célèbre le 14 novembre la journée mondiale du diabète. Cette journée a pour but de mieux faire connaître cette maladie dans le monde, son ampleur, mais aussi les moyens dont on dispose pour la prévenir. Instaurée par la Fédération mondiale du diabète et l'Organisation mondiale de la santé, cette journée est organisée le jour anniversaire de la naissance de Frédéric Banting, qui, avec Charles Brest, a joué un rôle crucial dans la découverte de l'insuline en 1922. Chez les diabétiques, cette hormone indispensable à la survie est aujourd'hui utilisée à des fins thérapeutiques. En RDC, le programme national de lutte contre le diabète indique que près d'un million de personnes sont atteintes du diabète, dont 5 à 10% sont des enfants et des adolescents. Comment se passe la prise en charge de diabétiques dans votre milieu? Nous en parlons avec le professeur Jean Bosco Kassian, qui est spécialiste en santé publique, membre du groupe d'experts africains du diabète et professeur de diabétologie à l'université de Kinshasa. Titi Poutou et Lydie Kachala sont à la réalisation de cette émission mise en onde par Héritier Sidiakala. Pierrot et la Meji vous la présente sous la supervision de Nicole Ngaka. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
081 890 63 15, c'est le numéro d'appel pour intervenir dans cette émission consacrée bien sûr à la prise en charge du diabète à travers le pays. C'est à l'occasion de la journée mondiale consacrée au diabète aujourd'hui 14 novembre. Professeur Jean Bosco Kassian, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur d'université, vous enseignez la diabétologie à l'université de Kinshasa, spécialiste en santé publique, médecine interne du diabète, c'est ça?
Exact, spécialiste en santé publique, en médecine interne, et mon domaine de recherche, hyperspécialisation, c'est la diabétologie cardiovasculaire.
Et ça dit que, comme nous parlons du diabète aujourd'hui, c'est ce qui est vraiment votre préoccupation de tous les jours.
Exact.
Et on parle de 1 million de personnes qui sont atteintes du diabète en RDC. Est-ce qu'on peut dire que ce chiffre est inquiétant?
Oui, vous dites 1 million de personnes, mais je ne sais pas si vous l'exprimez mieux, parce que je peux dire qu'aujourd'hui, la prévalence du diabète sucré est de 12%.
Donc, et la population congolaise.
La population, exact. Donc, si vous avez 100 personnes que vous ramassez au hasard, 12 ont le diabète sucré. Mais là, c'est quand vous vous basez sur un indicateur qui est la glycémie à jeun. Le taux de sucre chez une personne qui n'a pas encore mangé pendant plus de 11 heures. Mm-hmm. Mais par contre, si vous vous basez sur un autre indicateur qui est la glycémie après repas, ben, cette prévalence va à 18%.
C'est-à-dire voilà. Que le taux du sucre après quelqu'un ait pris un repas.
Oui, après quelqu'un ait pris un repas.
Et là, on va à 18%.
Oui, on va à 18%.
C'est un véritable problème de santé publique aujourd'hui.
Un véritable problème de santé publique parce que, oui, c'est un diabète. C'est une pathologie de plus en plus fréquente. C'est un véritable problème de santé publique parce qu'il est associé à une forte mortalité. Mm-hmm. C'est un problème de santé publique parce qu'il est associé à un risque important des maladies cardiovasculaires. C'est un problème de santé publique parce qu'il est associé à un risque important d'handicap. C'est un problème de santé publique puisqu'il est associé à un impact socio-économique important. Voilà, donc
et quand on parle de associé à une forte mortalité, on peut avoir une idée aujourd'hui, 600 personnes ont le diabète, combien ont les risques de mourir?
Oui, par rapport à ça, ce que vous dites, vous savez que tout homme est mortel, tout le monde mourra, mais ici c'est un peu là, ce qu'on appelle la mortalité prématurée. Et donc quand quelqu'un a le diabète, l'espérance de vie est réduite de 10 à 15 ans. Donc, c'est-à-dire, si tu devais mourir à l'âge de 75 ans, théoriquement, à cause du diabète, il faut prendre soit 15, moins 10 à 15 ans. Voilà, c'est ça le risque qui est associé au fait qu'on a le diabète sucré.
Et dans ces chiffres du programme national de lutte contre le diabète, on parle de 10 à 15%, 5 à 10% qui touchent les enfants et les adolescents. Pourquoi?
Ici, je ne parle pas au nom du programme national de lutte contre le diabète. Je ne
C'est une référence pour les chiffres que nous avons, oui.
Non, mais je fais un travail sur le terrain de dépistage et étude de prévalence du diabète dans notre milieu, dans la partie ouest. Donc, les chiffres, donc je vous parle là, de 12%, 18%. Ce sont mes propres chiffres qui sont déjà publiés et qui devront maintenant être validés. Donc, ce que je veux dire est que le diabète est associé à une forte mortalité parce que vous savez, aujourd'hui, si on se pose la question, quelle est la première cause de mortalité au monde? De quoi meurt l'être humain que Dieu a si bien créé, qui habite la terre? Ben, les maladies cardiovasculaires vont apparaître. Oui, c'est moi, c'est par ma porte que ces personnes sortent de plus de ces globes terrestres en bon. Mais quand on va poser la question à ces maladies cardiovasculaires, mais toi, de quel droit tu te permets de survenir et de ramasser tous ces êtres humains? On dit, non, c'est le diabète. Donc, c'est le diabète qui est une porte ou maladie cardiovasculaire qui, elle, constitue la première cause de mortalité au monde. Voilà.
Et là, nous avons abordé les questions des considérations par rapport aux chiffres, à la situation sur le terrain. Bien avant qu'on écoute les auditeurs, revenons maintenant aux considérations, si je peux utiliser les termes scientifiques, pour permettre aux auditeurs de comprendre, parce que les questions qu'ils pourront poser, ou soit leur préoccupation, peuvent tourner autour de savoir comment c'est cette maladie, un peu en bref, c'est quoi le diabète, comment on peut l'attraper, il y en a combien de sortes, peut-être ces trois petites questions, en bref, ça peut permettre aux auditeurs d'avoir une idée avant d'entrer dans la profondeur de leurs préoccupations.
C'est juste, le diabète c'est quoi? Le diabète c'est un état caractérisé par un taux élevé et persistant de sucre dans le sang. Voilà, donc là je m'adresse au commun des mortels.
Oui.
Donc le diabète c'est cet état-là, chez une personne caractérisée par un taux élevé et persistant, le mot important, persistant, le taux de sucre dans le sang. Mais d'où vient le diabète? Pourquoi quelqu'un attrape le diabète? Pourquoi tout d'un coup, voilà, je suis devenu une personne vivant avec le diabète? En fait, on n'aime plus parler des diabétiques. Diabétique, c'est peu éthique. Personne vivant avec le diabète.
Okay.
Personne vivant avec le diabète, c'est parce que le diabète n'apparaît pas comme ça de façon spontanée chez quelqu'un. C'est comme un enfant ne naît pas comme ça de façon spontanée dans une maternité. Quand un enfant naît, il se met à pleurer, mais il ne faut pas aller poser à un médecin une question, il ne faut pas aller payer une consultation pour savoir d'où vient cet enfant. Tout le monde sait que il y a un papa et une maman quelque part. Point. Stop. Clôturé. Donc le diabète, il faut le considérer comme un bébé qui est né aussi de ses parents. En bon, est-ce que le diabète devient un être vivant pour avoir des parents? Oui, c'est une façon imagée propre à moi pour expliquer aux communs des mortels qui comprennent que le diabète, effectivement, c'est un bébé qui est né de ses parents. Son père s'appelle Hérédité. Voilà le nom du papa qui l'a mis au monde. Quand bien même l'hérédité est au féminin, mais c'est un homme. Son père s'appelle Hérédité. Donc, c'est-à-dire, vous là, depuis l'utérus de votre maman, vous êtes né avec l'hérédité du diabète, avec la prédisposition au diabète, avec une capacité spéciale d'avoir le diabète un jour. Mais cela ne suffit pas. Il faut que l'hérédité puisse un jour épouser une femme. Donc vous, par votre comportement, vous faites marier l'hérédité, bien sûr par ignorance, vous faites marier l'hérédité à une femme qu'on appelle le changement de style de vie. Et dès lors, voilà, donc un couple qui se marie en vous, un bon mariage avec pompe, donc hérédité plus changement de style de vie, vous êtes content que je suis plongé dans un style de vie qu'on appelle le style de vie de prospérité, d'urbanisation, mais hélas, vous oubliez que vous êtes en train d'épouser un monsieur qui était là en train de pleurnicher chaque jour. Et ce couple va désormais mettre au monde pas un enfant, mais des enfants. Le fils aîné peut s'appeler diabète sucré, le second s'appellera hypertension artérielle, le troisième pourrait s'appeler obésité, le quatrième pourrait s'appeler le taux de graisse qui augmente dans le sang, etc., etc. Bref, un ensemble de maladies. Je n'aime pas les appeler maladies, je dis un enfant, un ensemble d'enfants qui naissent de ces mêmes parents et qui forment une famille d'eux. ici, ça s'appelle famille de syndrome métabolique. Donc, voilà, si on a le diabète, l'hypertension n'est pas loin. Si on a l'hypertension, le cholestérol n'est pas loin. Si on a le cholestérol, la goutte n'est pas loin. Si on a la goutte, l'obésité n'est pas loin, etc., etc. Donc, tout ça vient d'un même, des mêmes parents. Mm-hmm. Ce même couple est composé de l'hérédité.
Et les conditions de vie.
Et des changements de style de vie. Voilà.
Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a que ce diabète-là qui vient de l'hérédité? Y a-t-il aussi un diabète qu'on peut développer qui ne vient, qui puisse pas venir de l'hérédité?
Oui, exact. Puisque si je m'adresse au commun des mortels, je m'adresse à la population générale. Je parle du diabète qui est le plus fréquemment rencontré, un diabète qui vient sous ces modes-là, avec changement de style de vie. Mais à côté de ça, en fait, il existe, si je devais m'adresser à un auditoire des étudiants, mais il existe plusieurs types de diabète. Ben, je pourrais dire, si je m'adresse aux étudiants, je pourrais dire, ouais, il y a des diabètes essentiels d'une part, et il y a des diabètes secondaire à quelque chose. Le diabète est essentiel. Le diabète n'a apparemment pas de cause scientifiquement démontrée. Donc là, il y a des diabètes de type 1, diabète de type 2. Mais il y a des diabètes aussi venant d'anomalies, de la sécrétion d'insuline. Moi, ça devient. Je suis mal à l'aise pour en parler.
Effectivement, vous avez raison. On va permettre aux auditeurs d'avoir ce qu'ils peuvent facilement les aider dans leur milieu et comment ils doivent se comporter. 081-890-63-15, notre numéro d'appel pour intervenir en direct. Patient, vous êtes à Chimbulu, c'est au Kassai Occidental, Edgar dans la ville de Kananga, fidèle en Bandaka. On va venir à vous, messieurs, pour que vous puissiez nous dire ce que vous pensez de ces sujets et surtout les problèmes que vous avez dans votre milieu par rapport à ces problèmes de diabète.
Parole aux auditeurs.
Patient, vous êtes en ligne, bonjour. Patient, bonjour.
Bonjour Pierrot, c'est Patient Titoko Atimbulu, journaliste à la Radio Moyo.
Voilà, nous parlons de diabète. Parlez-nous de là où vous êtes à Atimbulu, ce qui se passe dans la prise en charge des personnes qui souffrent de diabète.
Oui, mais c'est bien, ici, nous à Atimbulu, nous avons beaucoup de problèmes.
Ah, dommage. La ligne entre Kinshasa et Chimbulu vient d'être perdue, hein, c'est dans le Kassai Occidental. Sinon, on aurait eu les témoignages des patients, qui est aussi journaliste sur place, hein, qui pouvait nous dire ce qui se passe, le problème qu'ils rencontrent dans le milieu par rapport à la prise en charge des personnes vivant, comme le professeur l'a dit, avec le diabète. Edgar, vous êtes à Kananga, c'est non loin de Chimbulu, bien sûr. Hein. Bonjour, Edgar.
Bonjour, Pierrot.
On vous écoute.
Oui, merci, Monsieur Pierrot. Ça va, les vers la 2025, qui me déconseillera environ 300 millions de diabétiques, dont 90% avec diabète type de type D, c'est-à-dire dû à une insulino-résistance avec carence relative en insuline. Cette situation est due en grande partie à la transition démographique, épidémiologique et nutritionnelle et au changement de style de vie observé surtout dans les pays en voie de développement. Quant à la prise en charge ici au Kassai Occidental, elle est difficile étant donné que la plupart des malades, M. Pierrot, arrivent à l'hôpital ou viennent consulter quand la maladie arrive déjà au stade de complications, telles que le coma hyper-osmolaire ou les AVC, qui sont les complications les plus fréquentes dans les diabètes sucrés de type D. Alors, je propose, M. Pierrot, que le gouvernement puisse doter les structures sanitaires des outils de dépistage gratuits, comme on le fait déjà pour le VIH. Pour qu'aussitôt dépisté, que l'on commence la prise en charge afin d'éviter les complications qui sont vraiment souvent irréversibles et mortelles. Voilà, en bref, que je peux dire à propos du diabète sucré. Et puis,
merci. Oui,
on n'a même pas parlé de la charge de diabète. Vraiment, c'est vraiment une maladie qui est négligée alors que c'est une maladie qui tue aussi parmi tant d'autres, M. Pierrot.
Merci beaucoup, Edgar. Apparemment, on comprend bien que vous êtes du domaine, soit vous travaillez dans un hôpital. Si on peut retenir de vous quelque chose, vous dites d'abord qu'il y a un problème sérieux des prises en charge, parce que déjà, les gens viennent consulter en retard, ils sont déjà dans un stade avancé, mais vous proposez au niveau du pouvoir public qu'on puisse disponibiliser, par exemple, hein, les outils de dépistage gratuits, comme on les fait avec le VIH, et puis on ne parle pas vraiment de diabète à Kananga. C'est votre constat. Les gens ne font pas vraiment cas de cette maladie. Merci beaucoup pour cet appel de Kananga. Fidèle en Bandaka, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes dans la province de l'Équateur, Fidèle. On vous écoute.
Oui, merci beaucoup pour la parole. Je pense bien que le président auditeur a vraiment épinglé vraiment un point saillant. du fait que dans nos milieux ruraux, il se fait que les gens qui se dirigent à l'hôpital, disons, pour les traitements, et à l'hôpital, mais du fait que les gens, avant tout d'abord de donner un médicament, disons, sous perfusion, mais les traitants ne changent pas seulement de l'examen, disons, de la glycémie et des cas qui se répètent ici. Il y a un patient qui s'est permis d'aller à l'hôpital et sous perfusion comme ça, il est parti sans pourtant l'examiner. Et par après, on signale que voilà, le patient était vraiment, disons,
il avait le problème de diabète, c'est ça, oui. Voilà, si on vous écoute fidèle, voilà. Ok, voilà, si on vous écoute fidèle, vous dites qu'il y a un problème dans le milieu rural, c'est la capacité des corps soignants de pouvoir quel comportement adopter. On reçoit un malade, on ne sait pas de quoi souffre-t-il directement. On va passer à administrer une perfusion et quelqu'un a succombé. Pourquoi ? Parce que on lui a administré une perfusion et juste après il est décédé. On s'est rendu compte que c'était dû à une augmentation du sucre. Voilà, ça c'est la préoccupation que vous vous posez à Mbandaka dans la province de l'Équateur. Merci beaucoup, fidèle. Nous avons Anne qui est à Kananga. On retourne dans la province du Kassai occidental. Bonjour Anne. Anne, bonjour. Anne, vous êtes avec nous, bonjour. Désolé que la ligne d'Anne pose problème. Nous traversons le fleuve de l'autre côté. C'est à côté de Kinshasa. Nous avons Freddy qui nous appelle de Brazzaville. Bonjour Freddy.
Oui, bonjour.
Quelle est votre préoccupation par rapport à cette question épineuse qui touche au diabète?
Moi, j'ai dit que je vais poser à notre invité.
Allez-y, oui.
La première question, si une personne souffre de la diabète, et les tensions. Est-ce qu'on peut lui injecter du coup sérum glucosé ou sérum physio? La deuxième question, je voulais savoir si une personne qui souffre de la diabète, il est en train d'utiliser un médicament qu'on appelle peut-être comme Doni. Bon, il a quitté ce milieu-là. Il est parti même au village. N'a pas trouvé ce médicament, a trouvé un médicament qu'on appelle glucosé. Est-ce qu'il peut toujours l'utiliser? C'est ça, moi, je voulais savoir.
Voilà, merci Freddy. Apparemment, c'est trop technique, mais on pourra demander au professeur de nous donner des réponses. Quelqu'un qui a le diabète au même moment, l'hypertension, quel type de perfusion peut-il recevoir? Et vous avez parlé d'un médicament à Doni qui va dans les milieux où il n'y en a pas. Peut-il prendre un glucosé? Peut-être que le professeur comprend ce que vous voulez savoir. Il pourra nous donner de plus amples explications. Roger, vous êtes ici à Kinshasa, dans la capitale. Bonjour. Roger, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute. Nous parlons de la prise en charge de diabète.
Oui, je voulais poser la question au docteur Kassiam parce que moi-même, je suis diabétique. Mais je voudrais lui demander s'il a une expérience par rapport aux compléments alimentaires, sur leur influence dans les traitements du diabète. Parce que moi, j'ai constaté, quand je prends par exemple le Moringa, ou le Fumboa, ou encore un complément alimentaire qui vient du Malaisie, Edmark, la glycémie se stabilise de soi. C'est de soi, même si de temps en temps, on a triché en prenant une bière, deux bières, mais en prenant des compléments alimentaires là-bas, ça équilibre fortement la glycémie.
Voilà, merci. On va revenir directement au professeur pour
ces questions. Oui, je n'ai pas dit une deuxième préoccupation.
Allez-y, prenez votre temps, oui, allez-y, vous dites encore.
Oui. Mais je voudrais demander au professeur s'il peut mettre quel est le rapport entre le diabète et l'hypertension. Parce que beaucoup de diabétiques sont finalement beaucoup hypertendus et...
Voilà.
S'il peut faire le rapport entre le diabète et l'hypertension.
Oui, en des termes clairs, le professeur pourra nous expliquer. Professeur Jean Bosco Kassiam, vous avez suivi le premier groupe d'auditeurs. Si je peux me permettre, en deux lignes, tracer leurs préoccupations. Le premier, Edgar de Kananga, pose le problème de malades, des gens qui vont consulter quand c'est déjà trop tard. C'est déjà un problème là où, dans les milieux. Les gens ne parlent pas assez de cette maladie. Et puis, il y a ces problèmes de dépistage gratuit qui se posent. En Mbandaka, c'est plutôt le problème de corps soignant. quel comportement doivent-ils avoir quand ils reçoivent un malade, des perfusions qu'on administre malheureusement sur un terrain qui n'est pas propice. Il y a Freddy de Brazzaville qui voudrait savoir, quelqu'un qui a le diabète et l'hypertension, quel type de perfusion pourra-t-il prendre, et il a parlé du médicament et les compléments alimentaires posés par notre ami Roger de Kinshasa, et aussi les liens entre l'hypertension et le diabète. Voilà un peu les préoccupations du premier groupe d'auditeurs.
Merci beaucoup, merci. Je vais essayer de ramasser tout ça sous une synthèse. Je commence d'abord par revenir, parce que quelqu'un a parlé de 336 millions.
Il est revenu sur les chiffres.
Je commence par dire, effectivement, aujourd'hui, le monde entier compte aujourd'hui 338 millions de personnes vivant avec le diabète. Aujourd'hui, le monde entier. Mais vous devez savoir qu'en 1985, le monde ne comptait que 30 millions de diabétiques. Et à l'an 2000, le monde comptait plutôt 140 millions de diabétiques. Mais aujourd'hui, nous sommes à 338 millions de diabétiques.
Ça dit que donc, ça a doublé dans les 10 dernières années,
exact,
si on peut dire.
Exact. Et donc, d'ici 20 ans, le monde pourra compter 552 millions de personnes vivant avec le diabète sucré. Donc, soit une progression pratiquement de 120%. Moi, je vous ai dit il y a peu que si en Occident, la progression n'est que de 41%, dans nos pays, la progression est de 170%. Et que le 80% de la population mondiale diabétique aujourd'hui est concentrée dans des pays en développement. Donc, sur 10 personnes qu'on ramasse au hasard dans le monde, 8 viennent de pays en développement. Et donc, par rapport à ça, je suis allé vous dire et que le diabète est un véritable problème, non seulement parce qu'il est de plus en plus fréquent. Vous savez, juste après la colonisation, pour avoir une personne vivant avec le diabète, c'était une affaire rarissime. Moi, aujourd'hui, sur chaque avenir, à un minimum. Mm-hmm. J'aimerais vous dire à ces propos que 70% des personnes vivant avec le diabète restent méconnues. On ne connaît que les 30%, et ce sont ces 30% qui sont en milieu hospitalier. Et donc, c'est sur ces 30% qu'on est en train de se partager, voir, il faut les soigner, il faut... Donc, les plaintes dont il parle ne concernent que les 30%. J'aimerais vous montrer ces faits-là. Mm-hmm. Donc, le 70% des personnes qui ont le diabète sont à la cité, et ils ne sont pas en milieu hospitalier, soit parce que majoritairement pas de signes, soit parce qu'il n'y a pas de moyens d'aller se faire soigner, etc., etc. Donc, il n'y a que les 30% qui se savent diabétiques et qui sont en milieu hospitalier. C'est un fait important. Mmh. Et enfin, je voudrais vous dire, si le diabète ne concerne que généralement des personnes d'un âge au-delà de 60 ans en Occident, mais dans nos milieux, il concerne plus des personnes d'un âge inférieur à 60 ans, pour ne pas dire des personnes en plein âge de productivité.
Je ne pourrais pas vous demander pourquoi, parce qu'il y a de... Continuer avec les réponses, mais on pourra revenir sur ça. Ces personnes-là soient beaucoup plus touchées.
On va revenir à ça, parce que je vous ai dit que pour que le diabète apparaisse, il faut des conditions. Première condition, il faut un papa. Le papa que j'ai appelé hérédité.
L'hérédité, oui.
Et il faut une maman que j'appelle le changement de style de vie, mais je n'ai pas encore dit ce que c'est exactement. Et donc, les deux ensemble vont mettre au monde une série d'enfants. Parce que quelqu'un m'a posé une question. J'avais la relation entre l'hypertension et le diabète. Donc, les deux ensemble vont mettre au monde une série d'enfants. Et donc, il ne faut pas se limiter à un enfant unique. Et les enfants peuvent naître sous forme de ma part, ça aussi. Pourquoi pas? Et donc, le même jour, quelqu'un peut avoir et le diabète et l'hypertension. Comme aussi, l'hypertension peut être le fils aîné, suivi du second, qui est le premier cholestérol, du troisième fils, qui est le diabète, etc., etc. Donc, le tout vient sous un terrain, un soubassement de ce couple-là, un couple indésirable qui ne met au monde que des enfants méchants, voleurs à main armée et qui mettent les corps humains à feu et à sang. Mais donc, par rapport à ça, voilà. Donc, le diabète, toujours, c'est un véritable problème, vous avez compris, parce que de plus en plus fréquent, parce qu'il est associé à une forte mortalité. Je vous ai même dit il y a peu que la première cause de mortalité au monde aujourd'hui n'est pas le sida. Et si on doit comparer les personnes, en fait, le nombre de décès liés au sida, à celui lié au diabète, maladie cardiovasculaire, mais c'est lié au diabète, maladie cardiovasculaire, est de loin supérieur à celui lié au sida. Mais l'affectation de ressources, hélas, c'est d'abord pour le sida. Peut-être on va en revenir un peu plus tard. Et le diabète est associé à des handicaps. Vous voyez, quelle joie y a-t-il à avoir le diabète pendant que une personne sur deux, sexe masculin, ont une faiblesse sexuelle, ou vont avoir plus tard, au cours de leur vie, une faiblesse sexuelle. Et la première cause de cécité au monde, à l'époque, à un moment donné, c'était le diabète. Il s'est précipité à la place. Avec... Mais aujourd'hui, il y a à peu près le diabète, le glaucome, tout ça. Le diabète a quand même une part importante. Si on doit poser la question à ceux qui sont une certaine cécité, vous venez, qui vous a crevé les yeux, que Dieu vous... Le diabète va venir, oui, moi, parfois je me précipite à la place avec le glaucome. Voilà, donc le diabète a quand même une part importante. Le diabète est associé à un impact économique, socio-économique, parce que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit, voilà, des personnes qui viennent, il y a un problème de médicaments, etc., etc. Mais le diabète est associé à un impact socio-économique important. Sur le plan économique, allez poser la question à une personne qui vit avec le diabète. Qu'est-ce qu'il débourse comme montant par rapport à toutes ses consultations, par rapport aux achats de médicaments, par rapport, même s'il doit voyager, il arrive quelque part, il y a une famille qui l'accueille avec beaucoup de gentillesse, il s'impose par rapport au régime, oh, on a lié à côté. Donc voilà, le diabète est associé à un impact économique, un impact même social. Sur le plan social, vous voyez, vous êtes papa vivant avec le diabète, mais les enfants savent que non, tel élément, vous ne prenez pas, vous ne mangez pas, mais un jour, une fille dit, voilà, ah, il est prêt à ça, l'église, il est allé à l'église. Donc, vous vous sentez un peu abandonné. Donc, un impact social important. Mais pour revenir à la prise en charge, pour parler correctement à la prise en charge, parce que je ne veux pas perdre beaucoup de temps à venir parler des médicaments, donnants, etc., etc.
Non, on ne va pas parler de médicaments, parce que quelqu'un risque de dire, voilà, la radio, on a dit de prendre tel médicament, il va courir finalement prendre ça, c'est très dangereux.
Exact. Aujourd'hui, nos études, les études que nous avons faites sur le terrain, ont essayé d'élucider la progression du diabète dans notre milieu et pourquoi le diabète apparaît. Chez nous, le diabète qui est le plus populaire dans notre milieu, dont le diabète de type 2, apparaît après 4 étapes tout à fait distinctes. Parce qu'il y a le problème de la prévention qui va se poser. Donc, il faut que l'on sache qu'il y a 4 étapes. La première étape, nous l'avons appelée initiation étiologique. Initiation étiologique ici, c'est quoi? C'est l'apparition des facteurs d'environnement. Et donc, voilà, un individu est là, dans un environnement donné, et progressivement, son environnement est envahi par un ensemble de facteurs. Ça, nous appelons ça initiation étiologique. Et donc, il faut une action à ce niveau. Deuxième étape, c'est l'initiation pathologique. L'individu qui est envahi, qui vit dans un environnement envahi, est lui maintenant intéressé, donc est atteint par, donc il est atteint et apparaît chez lui ce qu'on appelle une insulinorésistance. Parce que quelque part, quelqu'un a parlé d'insulinorésistance.
Il a parlé
et donc,
de ça.
Cet individu qui vit dans cet environnement envahi par des facteurs d'environnement, permettez la tautologie, mais l'exprès, est atteint enfin par ce qu'on appelle une insulinorésistance, qui est la seconde étape, appelée, que j'appelle initiation pathologique. L'insulinorésistance ici vient à partir de l'interaction entre les facteurs héréditaires et ces facteurs d'environnement. Et cette insulinorésistance, d'abord, donc, aux premières heures, elle n'a pas de signe.
C'est-à-dire qu'on a déjà un problème,
on a un problème,
on ne s'en rend pas compte.
Exact. Parce qu'ici, on va vous dire, mais comment je saurais que j'ai le diabète? J'aimerais vous dire que même cette insulinorésistance, la glycémie n'est pas augmentée. Donc, pour vous dire que le problème est plus que ce que l'on pense. Et donc, cet individu qui a une insulinorésistance, a une glycémie normale, ne boit pas beaucoup d'eau, n'urine pas beaucoup, donc pas de signe. L'insulinorésistance est seulement au niveau infraclinique, au niveau biologique. Et progressivement, cette insulinorésistance va aller vers la troisième étape où il y a, comme on dit à Lingala, va commencer Kubimisa Maseke, va commencer à présenter son phénotype, va commencer à présenter ses caractères. Les caractères ici peuvent être quoi? L'hypertension artérielle, le problème de cholestérol, le problème d'ovaires microkystiques, le problème de cerveau, etc. Donc, c'est une insulinorésistance comme sous-bassement et qui progressivement se caractérise par un ensemble d'éléments. Et ces éléments-là constituent en fait l'apparition de ces éléments constitue la troisième étape que j'appelle manifestation clinique. Enfin vient la dernière étape. La dernière qui est l'issue finale. Ici, ce sont ces éléments qui ont apparu, qui vont, dans un principe de l'union fait la force, vont créer le risque et donc l'apparition du diabète, sinon l'apparition de la maladie cardiovasculaire, AVC, maladie rénale, etc. Voilà en fait le processus. Et donc pour parler de la prévention, de la prise en charge, quand quelqu'un me parle des dépistages, parfois je souris, je dis mais on va dépister les personnes qui ont déjà dépassé la troisième étape, qui sont vers la quatrième étape. Quid de la grande masse qui sont à la première étape? Quid de la grande masse qui est la deuxième
professeur,
étape?
Parce que ces gens, quand vous les dites, quelqu'un risque, on risque tout à l'heure de se troublé à la maison, on dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on a là comme problème? C'est qu'il veut dire, je peux être là, nous sommes en train de causer, je peux avoir déjà des problèmes. Mais alors aujourd'hui, parce que les gens, ils ont besoin des réponses concrètement, comment on doit procéder à ces jours? Parce qu'on a besoin de savoir quand même, on les dit, allez vous faire dépister, vous devez connaître votre état sérologique, on les dit tous les jours, mais par rapport à ces problèmes de diabète, vu la gravité de fait, aujourd'hui, quelqu'un commence par quoi?
Oui, vu la gravité des faits, la question que vous me posez, je vais les répondre dans deux perspectives. Une perspective populationnelle, Il y a des perspectives individuelles. Donc, au niveau d'un individu, qu'est-ce que je peux faire qui est dans mon cabinet médical? Mais au niveau de la population tout entière, voilà une bande de personnes qui habitent Kinshasa, une bande de personnes qui habitent Kananga, qu'est-ce qu'il faut faire? Je commence au niveau population. Au niveau populationnel, il est important que vous ayez en mémoire ces quatre étapes dont je venais de parler. Et donc, pourquoi ne pas aller boucher la source et aller en aval, mettre une barrière sur le fleuve Congo, comme soi-disant freiner là. Non, mais vous n'allez pas le faire. Donc, vous êtes en train de courir derrière les vents avec un panier pour mettre les vents dans un panier. Je souris tout simplement. Je dis, pourquoi ne pas aller à la source et aller à la source qui est en amont, et vous voulez aller en aval, commencer avec les dépister, vous allez en aval, détecter, faire des glycémies sur les gens qui... Mais à la source est à la première étape, l'initiation éthiologique, ou à l'apparition des facteurs d'environnement. Et donc, tous ces produits que l'on fabrique, et qui progressivement envahissent, ces produits qui envahissent l'environnement, mais c'est une menace grave. Je vous ai dit ici que sur 10 diabétiques au monde, 8 sont dans nos pays. Mais pourquoi 8 chez nous et 2 ailleurs? Mais il y a ce problème d'initiation éthiologique. Le changement des facteurs d'environnement qui est la forme de l'hérédité. Dans le chemin des facteurs d'environnement, il y a plutôt le chemin de style de vie, il y a quoi? Il y a l'inactivité physique, il y a le stress psychosocial et il y a l'alimentation inappropriée.
C'est-à-dire qu'il faut commencer d'abord par ces trois choses.
Mais c'est ça, parce que si...
Avant de pouvoir se rendre à l'hôpital pour aller donner le sang, qu'on cherche la glycémie.
Non, là, c'est au niveau populationnel.
Ouais.
Donc, les mesures de prévention, il faut des mesures dirigées vers cette étape. Il faut des mesures dirigées vers la seconde étape pour aller détecter ceux qui ont une solution. Il faut des mesures dirigées vers la troisième étape. Mm-hmm. Et il faut en faire des mesures dirigées vers la dernière étape. Donc, voilà, ça, c'est au niveau populationnel. Mais au niveau individuel, il y a aussi des mesures qu'il faut prendre. Au niveau individuel, quand une personne vient, bien sûr, nous nous disons que nous n'allons pas lui dicter des mesures déjà vers la première étape, parce que la première étape, c'est au niveau populationnel, il y a des implications politiques.
Et là, c'est la responsabilité de corps soignants qui reçoivent les gens dans leur cabinet.
Non seulement des corps soignants, c'est la responsabilité de tout le monde, parce que quand je parle de changement de style de vie, où il y a le problème de stress psychosocial, imaginez quand quelqu'un est à l'arrêt pendant longtemps. C'est un facteur qui est de surmortalité. Et quand quelqu'un se met à prendre le coca, c'est un facteur de surmortalité. Quand quelqu'un se met à prendre un primus, c'est un facteur de mortalité. Quand quelqu'un est inactif, prend une voiture, parce que ses ancêtres, pour aller qui santo faisaient les pieds, pour aller qui quitte faisaient les pieds, d'où les diabètes étaient rarissimes chez eux. Mm-hmm. Mais lui, il prend une voiture, il a un problème de la production des voitures, donc une remise en question fondamentale. Aujourd'hui, dans les grands congrès, on nous dit, mais écoutez, à partir du moment, nous constatons que ce que nous avons exporté comme civilisation a réduit l'espérance de vie chez vous, a fait une redistribution autrement des maladies. Mm-hmm. Mais que faire? Mais c'est difficile parce qu'il y a un problème d'intérêt. Regardez, aujourd'hui, on est beaucoup plus focalisé sur le sida,
voilà,
n'est-ce pas?
Oui, oui.
Voilà,
mais professeur, on va revenir à vous parce qu'il y a beaucoup de préoccupations. On a 3 auditeurs en ligne, mais il y a aussi des messages que nous avons reçus, hein, les auditeurs qui nous ont écrit à travers la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. On va lire ces messages. Il y a une question qui vous a été posée directement par notre ami Boniface de Kinshasa, mais il y a aussi la question de Roger sur les compléments alimentaires. Bon, ça touche, bien sûr.
Je vais répondre.
On va revenir là-dessus.
Oui, oui.
Lui dit ceci, professeur, aujourd'hui, sur les plans alimentaires, on nous propose des hamburgers, des shawarmas, des frites, etc. Que devons-nous finalement manger pour prévenir le diabète? Nous avons Lucien Migabo de Bukavu qui dit ceci, il y a insuffisance des centres d'encadrement pour les malades de diabète dans notre milieu. Bon nombre de malades ne sont pas soignés convenablement par manque de connaissances sur la prise en charge et les moyens aussi insuffisants pour les suivis. Emmanuel Chumbika Vano de Bukavu, ici à Bukavu, surtout au niveau des territoires, il y a beaucoup de personnes de troisième âge fêter cette journée, c'est bon, mais nous devons penser plutôt à la prise en charge des patients et définir les stratégies pour les atteindre. John Moses Ilunga qui est à Lubumbashi, pour la plupart des patients qui ont le diabète, on leur dit tout simplement comment évaluer les taux du sucre et des fois comment prendre les médicaments si possible, c'est ce que je vois dans mon milieu. Elvis Lukeba de Kinshasa, est-ce qu'on peut guérir du diabète? On va revenir au professeur après avoir écouté Anne qui est à Kananga, Josué qui est à Bukavu dans la province du Sud Kivu.
Au Capi Danse, du rythme et de la chaleur, des heures de musique, les tubes du moment et les meilleures nouveautés. R&B, hip-hop, rumba électrique, pop, rap, d'Afrique ou d'ailleurs, tous les tempos mixés par DJ Daddy. au Capidan, les mercredis jeudi de 21h à minuit, le samedi Megamix de 19h à minuit.
Anne, vous êtes de nouveau sur les antennes, bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour Monsieur Professeur.
Vous êtes à Kananga, au Kassai Occidental. Vous avez suivi l'introduction, les points de vue des auditeurs, les réponses données par les professeurs. On vous écoute, Anne.
Oui, j'ai deux questions à poser au professeur. La première est celle-ci. Nous savons que le diabète est une maladie de métabolisme et que chaque personne est censée suivre de bonnes habitudes alimentaires pour l'éviter. Mais qu'est-ce qui fait que ces derniers temps, même ceux qui surveillent depuis longtemps leur régime alimentaire deviennent diabétiques? Et la deuxième, quel impact les conflits et le stress dans les familles peuvent-ils avoir sur le diabète? Et que donnez-vous comme conseil aux personnes mariées?
Merci beaucoup Anne. Des gens même qui surveillaient le régime alimentaire aujourd'hui, d'un coup on les voit développer le diabète, c'est une très bonne question professeur. Mais aussi l'impact des conflits et stress dans les familles, hein. Les conseils à donner au mari par exemple aujourd'hui. Voilà, on va revenir pour donner des réponses à Anne. Et nous avons Josué qui est à Bukavu, bonjour Josué. Josué, bonjour.
Espoir qui écoute.
Bonjour.
On vous écoute Josué, oui. Josué, s'il vous plaît, arrêtez d'abord. Oui, Josué, avant qu'on puisse revenir à vous, s'il vous plaît, Josué, on va revenir à vous le temps que vous puissiez arrêter votre poste récepteur. Comme ça, ça va nous éviter ces échos-retours sur les antennes. Hein. Josué, vous nous écoutez maintenant bien?
Oui, c'est déjà arrêté.
Ok, c'est bien, vous avez bien fait. Oui, allez-y.
Nous sommes les enfants dans la famille, d'où quatre filles et trois garçons. Curieusement, tous les garçons sont atteints de diabète, puisque notre mère était morte de cette dernière. Je voulais savoir si le diabète est relié à des relations avec le sexe. Ça, c'est la première question. La deuxième question, ça fait 12 ans que je suis diabétique. À tout moment que j'ai des picotements dans les jambes, je me prescrivais de Tribex Sport. Dès lors là, je pense toujours, je viens de constater que, au lieu qu'il y ait une guérison, la température au niveau des orteils a extrêmement baissé. Ça peut atteindre même aux environs des 0, 4, 5, 5 degrés. Alors, je ne sais pas s'il y a encore un autre médicament qu'on peut me prescrire. En plus de cela, il y a les chairs d'épaule. Il y a de cela 5 à 6 ans. Et à tout moment que je me présente devant un médecin, il ne me donne que les plus forts. Je ne sais pas s'il y a encore autre chose. Voilà mes deux préoccupations.
Merci beaucoup, Josué. Vous dites d'abord où cet enfant dans une famille. Trois garçons ont développé le diabète parce que la maman en a souffert et c'est désolé vraiment. Et vous voulez savoir si c'est une maladie, comme on dit dans le domaine, liée au sexe, c'est ça professeur? C'est oui. Peut-être ça la question que je vais demander, si c'est lié au sexe. Pourquoi les filles n'ont pas développé et les garçons ont développé? Il y a aussi des considérations purement techniques. Pratique, hein. Le problème de médicaments qu'il prend quand il a des petits soucis, on va revenir. Le temps qu'on puisse écouter Espoir. Espoir est à Kikwit, c'est ça. Bonjour Espoir.
Bonjour.
Vous êtes à Kikwit dans les bandes d'Ondou, on vous écoute.
Bonjour, bonjour M. Doré, bonjour à l'invité.
Allez-y, oui Espoir, on vous écoute. Oui, posez la question, oui Espoir.
Oui, est-ce que si une personne a la diabète, est-ce que pas? Je dis, oui, si une personne a la diabète, est-ce qu'il peut se parfumer?
Voilà, vous demandez si on est diabétique, on peut recourir à un parfum. Oui, voilà, conséquence de se parfumer quand on a le diabète. Merci beaucoup, Espoir. Kayembe, vous êtes à Kananga. Kayembe, c'est à Kananga ou à Mbujumaï, je ne sais pas. Kayembe, vous êtes sur les antennes, bonjour. Kayembe, vous êtes avec nous, bonjour.
Voilà. Bonjour, je suis à Kananga.
Oui, au Kassai Occidental.
Bonjour à l'invité.
Merci beaucoup, monsieur. On vous écoute. Oui, monsieur Kayembe, vous êtes avec nous sur les antennes. Quelle est votre préoccupation? Oui. Oui, si, il serait mieux d'arrêter votre poste récepteur. Hein. Vous allez suivre l'émission à travers les téléphones portables. Comme ça, ça va vous éviter de nous suivre avec un petit décalage. Ça peut aller comme ça, monsieur? Voilà, c'est ça. La réalisation pourra revoir avec lui comment l'aider à nous suivre parce que là, il écoute à travers la radio, ça fait un tout petit peu de retard. Mais on pourra lui accorder la parole hein, pour qu'on sache quelle est sa préoccupation. Professeur, on revient à vous. Il y a des questions directement qui sont posées par les auditeurs, hein, comme celui qui demande si on peut guérir de diabète, comme la dame Yann de Kananga qui voudrait savoir pourquoi ceux qui ont surveillé leur conditions, on peut dire, les régimes se retrouvent d'emblée en train de développer la maladie. Et notre ami de Bukavu, par rapport aux garçons qui ont développé le diabète, qui les filles, voilà un peu ces préoccupations concrètes posées par les auditeurs.
Merci beaucoup à tous les auditeurs. Ce sont des questions combien pertinentes. Je vais ramasser les deux premières questions d'un bloc. C'est pourquoi j'ai insisté en disant que le diabète n'apparaît pas comme ça de façon spontanée. Quand le diabète apparaît, c'est qu'il y a eu union entre un monsieur qu'on appelle l'hérédité et une dame qu'on appelle le changement de style de vie. Dans le changement de style de vie, qu'est-ce qui est inclus dedans? Il y a trois éléments importants. Alimentation inappropriée. Mm-hmm. Parce que toi, tes ancêtres à toi, qui dans les natures expérimentales n'avaient pas beaucoup de cas de diabète, avaient une longue espérance de vie et mangeaient d'une certaine façon. Aujourd'hui, tu manges d'une façon tout à fait différente. Est-ce que tes ancêtres prennent le lait le matin? Est-ce que tes ancêtres prennent le beurre le matin? Est-ce que tes ancêtres prenaient le pain? Regardez, chez l'antilope, il n'y a pas de diabète, il n'y a pas d'hypertension. Pourquoi? Mais l'antilope est resté dans la droite ligne qui a été dictée par Dieu. L'antilope ne prend pas le feuille de manioc, mais à mélanger le feuille de manioc avec autre chose. Chez les pygmées, les diabètes, l'hypertension sont rarissimes. Pourquoi? Ils sont restés naturels. Mais par contre, le changement de style de vie, l'occidentalisation, l'urbanisation, et que d'aucuns appellent de tous les vœux, mais regardez, non seulement qu'il y a le réchauffement de la Terre avec toute cette transformation, mais s'il prend une maladie, une redistribution autrement, où nous pensons que nous sommes au soir de l'histoire de l'humanité. Et donc ici, à partir du moment où on est, donc parce que Dieu qui m'a créé, il ne m'a pas mis n'importe où. Il a souhaité, bon, de ne pas me mettre en Amérique, parce qu'il a décidé de me mettre quelque part en Afrique à un point donné. Et s'il était bon pour moi que je sois en Asie, Dieu l'aurait fait. S'il était bon pour moi que je sois à Londres, il l'aurait fait. Mais il n'a pas mis là-bas, il m'a mis quelque part. Et là où il me met, donc pour Dieu c'est bon, parce que lui qui connaît mon corps plus que la médecine. Et par rapport à ça, il met autour de moi un environnement impeccable pour que je vive longtemps. Et donc, par rapport à ça, voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, dans cet environnement, il y a entre autres l'alimentation. Mais donc, l'urbanisation, donc une espèce de copie d'une autre alimentation autour de moi, où je pense que l'homme idéal que Dieu avait créé, c'est cet homme-là, pas moi, alors je me mets à copier son alimentation, j'ai un prix à payer.
Et c'est pourquoi notre ami qui a posé la question de savoir, mais on va manger quoi? Il y a des frites, des hamburgers, des shawarma, tout ce que nous est présenté aujourd'hui.
Par rapport à ça, j'ai même ajouté ceci, notre bouche nous trompe, la bouche est fatiguée de mâcher chaque jour, la bouche veut se reposer de façon définitive, et nous amène dans des ruses. Et c'est que la bouche aime de plus, et de l'espérance de vie. J'aimerais vous dire que la bouche a des besoins tout à fait différents des besoins du corps humain. La bouche devait être un bon indicateur pour nous dire que veut le corps humain. Et là, ce n'est pas ça. Vous en rendez compte. Donc la bouche aime des choses que peut-être... Et donc, vous imaginez, par exemple, que... Oh non, j'ai mangé un peu de ça. Un peu, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à vos yeux qui savent compter un des grains. Un peu, c'est par rapport à votre bouche qui sent à peine, qui goûte à peine. Et un peu, c'est par rapport à vos doigts qui ont pris juste... Mais est-ce que... Si vous saviez que si ça dépasse l'estomac, le tissu crie au scandale, qui nous envoie cette tonne de sel? Je crois l'ordre allait revenir. Donc, comme pour dire, celui qui vit selon sa bouche ne va pas vivre longtemps. Je reviens en disant que, à partir moment, nous avons copié un style de vie d'ailleurs dont l'alimentation qui n'est pas appropriée à nous est différente de celui de nos ancêtres. Donc, nous ne pouvons pas atteindre 100 ans, devient un luxe aujourd'hui. Pourquoi ne pas atteindre 100 ans pendant que nous avons du courant, pendant que nous avons de l'eau, pendant que nous avons des voitures, pendant que nous étudions avec nos ancêtres, soi-disant dans une vie traditionnelle? Donc, une remise en question même de la définition du développement. Donc, la médecine aujourd'hui, les avancées médicales permettent même de remettre en question ce que c'est le développement. Parce qu'en fait, si aujourd'hui j'ai du courant, j'ai une voiture, j'ai mangé, mais je ne peux pas atteindre 100 ans, mais il est remis en question.
Et donc, mais pour revenir, professeur, à notre ami de Bukavu, là on a répondu à Anne qui a demandé pourquoi ces messieurs qui surveillaient son régime, d'un coup ils développent le diabète.
Exact.
Mais notre ami voudrait savoir pourquoi les garçons ont pu développer que les filles, pendant ils sont dans la même famille.
Il y a une forme rarissime de diabète qu'on appelle diabète mitochondrial, qui est liée au sexe. Je n'aime pas beaucoup en parler. J'aime en parler dans un auditoire.
C'est vrai, vous avez
donc,
raison.
Donc, j'aime en parler dans un auditoire parce que ça n'intéresse pas vraiment les communs des mortels. Il y a une forme rarissime de diabète qu'on appelle diabète mitochondrial. Et c'est un diabète qui est entre autres lié au sexe. mais il est rare. Ça, c'est un cas intéressant qui m'intéresserait vraiment personnellement pour qu'on fasse des études approfondies au niveau mitochondrial.
Nous avons le contact de notre ami qui nous a appelé de Bukavu. L'impact de le conseil que vous pouvez donner à un mari par rapport au stress et conflit au sein de la famille.
Oui, par rapport à ça, dans le chemin de style de vie, non seulement il y a l'alimentation occidentale, mais il y a le stress social. Mes ancêtres à moi avaient comme stress, voilà, les Bamongo sont en forêt, brusquement attaqués par les Baswahili. Voilà le stress qu'ils avaient. Ils n'avaient pas de stress de carburant qui manque, ils n'avaient pas de stress de moyens de transport, ils n'avaient pas de stress de salaire, ils n'avaient pas de stress de minerval, ils n'avaient pas de stress de. D'où aujourd'hui atteindre 100 ans devient un luxe. Donc le stress, toute forme est confondue. Et donc par rapport
c'est
à
un facteur qui peut
faciliter
aujourd'hui à quelqu'un de déclencher
exactement, donc le stress, et il y a aussi l'inactivité physique. Oui, mes ancêtres pour aller à Kikuit, aller à pied, pour aller à Matadi, aller à pied, pour aller, mais moi je vais en voiture, donc je ne peux pas atteindre 100 ans comme eux. Atteindre 100 ans, je répète plusieurs fois, qui veut m'entendre, que devient un luxe aujourd'hui, par rapport à tout ça. Et donc, je termine en disant qu'il y a un ami qui m'avait posé une question avant,
sur les suppléments.
J'aimerais lui dire que le Mfumwa, c'est moi, c'est pratiquement c'était mon travail de fin de spécialisation. À l'époque, j'étais assistant en médecine interne, je faisais ma spécialisation pour devenir spécialiste. Mon titre, c'était en fait l'étude d'un Mfumwa, et c'est moi qui avais mis ça en évidence, le complément dont il parlait. Donc, dans les Mfumwa, il y a des fibres alimentaires qui réellement se mettent en barrière au niveau de la muqueuse intestinale pour diminuer, ralentir l'absorption du sucre, des graisses, de sel, etc., etc. Mais, en fait, le problème de fond n'est pas celui-là. Le problème de fond, je le répète, n'est pas en rapport avec les compléments, tout comme tes ancêtres avec quel complément alimentaire tes ancêtres. Donc, le premier défaut, c'est le changement de style de vie. Et donc, parce qu'aujourd'hui, le Belge, lui, ne prend pas les Mfumwa, ne prend pas les Dongo-Dongo.
Oui.
N'est-ce pas? Ne prend pas les Dongo-Dongo, ne prend pas les Mfumwa. D'où il n'a que 2 cas de diabète. Mais moi qui prends le thé, qui prends le beurre, le fromage, j'ai 8 cas de diabète sur 10. Voilà.
Voilà, on va revenir à vous, c'est très important. En fait, la démarche pour nous dans l'émission, ce n'est pas entrer dans la profondeur des termes trop techniques parce qu'on s'adresse à tout le monde, que les gens comprennent ce qu'ils doivent faire dans leur milieu. Mais on va aussi, au fur et à mesure qu'on avance, on va revenir sur les problèmes de ceux qui sont déjà malades. Parce qu'en nous écoutant, ils ont besoin quand même qu'on leur dise, vous êtes malade, voilà ce que vous devez faire, voilà comment vous devez vous comporter, voilà là où vous devez aller. On va revenir à cette préoccupation-là. On va écouter KMB, Olivier et Simon.
Parole aux auditeurs.
Kayembe, vous êtes à Kananga, au Kassa Occidental, bonjour.
Bonjour.
Je crois maintenant c'est bon, on peut bien s'entendre.
Radio Okapi ainsi que notre invité.
Merci beaucoup, on vous écoute, votre préoccupation par rapport à ces problèmes de diabète.
Je suis marié, père des enfants, j'ai mon épouse qui a présenté cette histoire de diabète. Vraiment, j'en ai eu de toutes les couleurs, j'ai vu, c'était très difficile, mais néanmoins, dans la famille de personne n'a souffert de ce diabète. Si j'interviens, c'est parce qu'on me dit qu'il y a le problème
hérédité. Oui, voilà.
Bon, maintenant, on a fait vérifier, personne alors n'a présenté des cas de diabète. Bon, que notre invité soit patient et qu'il m'écoute parce que j'ai suivi quelque part où il est en train de dire Seigneur a dit nos ancêtres, ainsi de suite. Mon expérience personnelle peut pouvoir aider aussi les autres. Lui qui est déjà, il a fait une expertise, puis une licence et tout ça, une spécialisation dans tout ça, ça peut encore l'aider et ça va aider d'autres messieurs et d'autres personnes. Il se fait que quand j'ai pris cette situation en main, j'ai vu tous les médecins possibles de Kananga, on est intervenu, on a traité, mais à un certain moment maintenant, j'ai vu que ce n'était plus un problème de maladie. S'il vous plaît, soufflez que vous puissiez me comprendre, je veux que je puisse partager cette expérience avec les gens.
Oui, mais si vous pouvez abréger cela pour permettre à ce qu'on gagne le temps, parce que là, on n'a que 9 minutes qui nous séparent du bulletin d'information.
Merci. Et alors, maintenant, il a fallu seulement la main de Dieu. La main de Dieu qui a fait valoir que, effectivement, ce n'était pas une diabète ou un diabète, je ne sais pas comment vous voulez bien qualifier ça. Non, une maladie, mais c'était quelque chose créé par les gens de mauvaise foi. Et maintenant, nous sommes intervenus par des prières et surtout pour le Kassai, il y a une nourriture qu'on a malimbé et ces malimbés-là ont beaucoup contribué à la guérison de mon épouse. À l'heure où je vous parle, on a fait des tests et on a prouvé que jamais elle n'a eu de diabète. Quand j'ai présenté les fiches et tout ça, on ne veut pas reconnaître qu'elle a cette maladie. Alors, vous comprenez qu'il y a d'autres maladies qui nous arrivent, qui nous parviennent par de mauvaises volontés, par certaines situations. Mm-hmm. Alors, il faut que notre spécialiste aussi en tienne compte dans ses recherches et qu'il cherche à aider le peuple congolais dans ce sens-là. Voilà,
merci, voilà
mon intervention et je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur Kaimbe, pour ce témoignage. Hein. Votre épouse, dans l'histoire familiale, pas de diabète, mais curieusement, elle a développé la maladie. Autant de traitements sans solution, il s'est rabattu à Dieu parce qu'il dit ceci, qu'ils se sont rendus compte que l'origine de cette maladie était démoniaque. Et puis, il a associé à cela la consommation des malembe. Vous avez une idée, ce qu'on appelle le mbala ici, mais pas le mbala sucré. Les malembe, c'est,
je connais,
c'est de couleur blanche, c'est pas
sucré.
Voilà, les malembe.
J'ai fait des études.
Il vous demande aussi de pouvoir dire aux gens qu'on peut aussi avoir cette maladie d'origine mystique, seulement que les gens puissent aussi recourir à Dieu. Merci beaucoup, monsieur, pour ce témoignage. Olivier, vous êtes à Cucuit, bonjour. Olivier, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Pierrot.
Nous vous écoutons, on partage, hein, c'est un échange entre nous, les auditeurs, vous et le professeur, sur la problématique du diabète dans notre milieu. Quelle est votre intervention jusqu'à ce niveau?
Oui, vous avez suivi, je crois, un peu partout, il y a un problème de prise en charge. Alors, je voulais juste faire un petit rappel et poser deux petites questions à notre invité.
Mm-hmm.
Dans son discours d'investiture, vous vous souviendrez que le président avait dit que... le gouvernement allait améliorer la prise en charge des maladies cardiovasculaires.
Oui.
Alors, je venais demander un peu à l'invité si aujourd'hui le gouvernement le prenait comme expert technicien pour élaborer la politique d'amélioration de la prise en charge. Quels sont les actes prioritaires qu'il peut offrir au gouvernement? Parce que on a révélé un peu partout que ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Effectivement, à Cupid aussi, nous avons le même problème. Il y a des centres, un centre privé qui fait des bouilles. L'hôpital général essaie un peu de s'occuper des diabétiques. Mais il y a toujours un problème. Alors, au niveau du gouvernement, si notre invité, le professeur, devait servir d'expert pour élaborer la politique, j'aimerais savoir quels sont les axes prioritaires sur lesquels le gouvernement peut s'appuyer.
Oui.
Et ça, c'est la première question. La deuxième, c'est de savoir si lui, en tant qu'expert, en tant que spécialiste quotidien dans le domaine, est-ce qu'il y a eu un changement entre 2010 et 2012 en matière de prise en charge dans les hôpitaux qu'il lui a fréquentés. Donc voilà.
Merci beaucoup, Olivier. Deux préoccupations. Si le professeur, comme expert, pourrait aujourd'hui être appelé par le pouvoir public, le gouvernement, quels seraient pour lui les axes prioritaires à développer pour faire face à ce problème de diabète? Y a-t-il des changements sur terrain depuis entre 2010 et 2012 dans la prise en charge des personnes qui souffrent vivant avec le diabète? Simon, on va terminer avec vous cette première série d'auditeurs pour permettre à l'invité de pouvoir répondre. Bonjour, Simon. Simon, bonjour.
Bonjour, cher auditeur.
Vous
êtes...
Oui.
Le professeur.
Mm-hmm. Vous êtes à Lubumbashi, on vous écoute rapidement.
Je suis à Lubumbashi, alors j'ai des préoccupations.
Mm-hmm.
Ok, je vois que quelqu'un qui est atteint par le diabète, il y a un problème qui se passe sur la cicatrisation d'une plaie. Et il n'y a pas cette cicatrisation-là. Et due à quoi?
Mm-hmm.
Ça, c'est un. Et de deux, nous voyons qu'une même personne est diabétique. Et il est encore. Et elle est aussi hypertendue, a des troubles visuels. Il y a parfois, s'il tombe en coma, il y a une fois une hémiplégie, c'est-à-dire, hein, vous allez voir qu'une partie devient un peu paralysée.
Paralysée d'une partie du corps, oui, voilà.
Je ne sais pas. Et tu à quoi? Veuillez un peu m'éclaircir, je vous remercie.
Merci beaucoup. On revient directement à vous, professeur. Il y a ces questions qui ont été posées directement. Les témoignages de notre ami des Kananga, vous l'avez bien suivi. Olivier voudrait savoir si vous êtes invité aujourd'hui par le gouvernement comme expert pour élaborer une stratégie de lutte contre le diabète. Quels seraient pour vous les axes prioritaires? Mais aussi, s'y a-t-il des changements? Parce que vous êtes sur terrain, y a-t-il des changements dans la prise en charge 2010-2012? Et notre ami qui voudrait savoir pourquoi les plaies de ceux qui souffrent de diabète se cicatrisent difficilement. Mais il est revenu à ce qui a été déjà dit, les liens entre diabète, hypertension, troubles visuels, toutes ces histoires. Tout ce que vous avez déjà évoqué depuis le début de cette émission.
Merci beaucoup. Je commence par notre premier, celui qui a intervenu premièrement. J'aimerais lui dire qu'effectivement, d'abord ici, je parlais encore une fois du diabète, la forme populaire du diabète. Mm-hmm. Mais il y a des formes particulières de diabète. Dans nos milieux, dans les régions subsahariennes, qu'on ne trouve pas en Occident, ce sont des diabètes qu'on appelle diabète tropical africain, diabète où il y a des antécédents de malnutrition à l'enfance, mm-hmm. marasme et malnutrition. Et ces formes de diabète sont reconnues et associées à une longue période de rémission. C'est-à-dire, quelqu'un peut, même de façon spontanée, ou parfois avec un peu d'intervention du régime alimentaire, rester avec un taux de sucre normal pendant des années, 10 ans, 20 ans, 30 ans, pourquoi pas. Et donc, ce sont des formes particulières de diabète qu'on ne trouve pas en Occident. Comme aussi, il y a des formes de diabète chez nous, avec quelqu'un atteint une glycémie de 800 mg pour cent, mais il n'est pas en coma. Mm-hmm. C'est curieux pour en Occident, bien sûr. 800 mg pour cent en Occident, on est en coma. Mais chez nous, il y a des diabètes comme ça. Et donc, des formes de diabète associées à des longues périodes de rémission. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, l'absence des personnes vivant avec les diabètes en famille ne veut pas dire absence d'hérédité. Pour que les diabètes apparaissent, je le répète, il faut que l'hérédité épouse une femme qu'on appelle le chemin de style de vie. Mon père peut avoir l'hérédité des diabètes,
mais il
ne l'avait jamais fait marier au chemin de style de vie, mm-hmm. le diabète n'est jamais apparu chez lui, il me lègue l'hérédité, moi je l'ai fait marier, et le diabète apparaît chez moi. Donc, sur le plan scientifique, l'absence d'hérédité des diabètes en famille ne peut pas dire l'absence de diabète en famille ne peut pas dire l'absence d'hérédité de diabète. Mmh. Enfin, je veux dire, toute maladie qui est guérie, c'est la main de Dieu. Il n'y a aucune maladie qui est guérie sans l'apport de Dieu. La médecine, la véritable médecine aujourd'hui, c'est que Dieu prend une partie de son intelligence, la lègue à des hommes, et pour que ces hommes portent des aides à ces créatures. Et donc, la véritable médecine, c'est une médecine sous Dieu. Et donc, la médecine n'est pas médecine sous Satan, et sous etc. Alors, donc, je vais dire ceci. Effectivement, les guérisons miraculeuses existent. Donc, je ne suis pas contre les guérisons miraculeuses, parce que moi-même, j'en ai vécu. Et donc, mais comme je ne veux pas entrer dans tous ces détails, parce que je me reste juste peu de temps, j'aimerais dire qu'effectivement, les guérisons miraculeuses existent.
Voilà.
J'aimerais dire qu'il existe aussi des diabètes liés à des longues, associés à des longues périodes de rémission.
Mm-hmm.
Mais par rapport
à Olivier qui vous a demandé les stratégies, je préfère que vous puissiez répondre à la question par rapport aux stratégies après le flash d'information, parce que là, on n'a que 30 secondes. Dans 30 secondes, vous n'aurez pas vraiment assez de temps pour développer les stratégies rapidement.
Merci.
Mais plutôt, peut-être dans 20 secondes, on peut répondre à notre ami qui a posé la question de savoir pourquoi les plaies s'escarpissent difficilement.
Mais quand vous déposez le sucre sur la table, les mouches viennent, mm-hmm. les fourmis viennent. Dans les corps humains, c'est aussi la même chose. Il y a beaucoup plus de sucre. C'est un milieu d'engrais. Permettez que j'utilise ces mots-là, un peu comme un agronome, milieu d'engrais pour les microbes. Et donc, la présence de sucre, c'est un milieu d'écriture pour les microbes.
Merci. Merci, professeur. On vous garde parce qu'on va écouter le flash d'information de Radio Capi. On va revenir pour la dernière partie. Deux auditeurs, vous développez encore, on va conclure cette émission. Rajab, vous êtes à Kindu, gardez la ligne parce que le professeur est en train de parler. Je rappelle à nos auditeurs que le 14 novembre, la journée mondiale du diabète, ce qui fait l'objet de notre émission, le partage sur toutes ces questions liées au diabète avec le professeur Jean Bosco Kassiam, qui est expert, bien sûr, vous l'avez suivi, on l'a déjà présenté depuis le début de cette émission. Professeur, vous aviez la parole avant qu'on puisse écouter le flash d'information sur si c'est que vous pouvez formuler comme stratégie aujourd'hui, si jamais le gouvernement vous demandait d'élaborer une stratégie, en quelques mots, quels seraient pour vous les axes prioritaires? C'est la question qui vous a été posée par Olivier, mais il a aussi demandé s'il y a un changement sur le terrain aujourd'hui, vous qui êtes vraiment dans les domaines du diabète. Oui.
Merci beaucoup. Une stratégie veut dire un travail d'intervention. Mais un travail d'intervention doit venir après un travail de recherche. Le travail de recherche a déjà été fait.
Mm-hmm.
Je vous ai dit que l'avancée foudroyante du diabète aujourd'hui parcourt quatre différentes étapes. Et donc, s'il m'était donné aujourd'hui de faire quelque chose, ça suffit. Je dois avoir des objectifs vis-à-vis de la première étape, des objectifs vis-à-vis de la seconde étape, mm-hmm. des objectifs vis-à-vis de la troisième étape et des objectifs vis-à-vis de la troisième étape. Et pour chaque objectif, cela est émaillé des moyens pour hein, atteindre cet objectif. Mm-hmm. Je vous donne par exemple un exemple. Vis-à-vis de la première étape que j'ai appelée ici initiation éthiologique, à partir du moment où nous savons que la source de toutes choses, c'est parce qu'il y a l'environnement qui est progressif mais envahi par des facteurs d'environnement. Mm-hmm. Et donc, les facteurs qui vont créer le schéma de ces défis. Et parmi ces facteurs, il y a le stress. Parmi ces facteurs, il y a l'inactivité physique. Parmi ces facteurs, il y a l'alimentation appropriée. Et donc, des mesures par rapport à cette étape, ce sont des mesures qui ne vont pas seulement concerner le secteur médical. Ce sont des mesures qui vont multisectorielles mm-hmm. et ou avec des engagements politiques, même des décisions politiques. Pour l'importer. Pourquoi ne pas, par exemple, parce que comme on sait qu'aujourd'hui, l'inactivité physique, noir sur blanc, c'est un facteur en date de l'avancée de la maladie cardiométabolique et diabétique. Donc l'inactivité physique favorisée par quoi? Par des voitures. À partir du moment où nos ancêtres n'avaient pas un problème d'inactivité physique, quittent le village, fait une longue marche à pied, va abattre les champs toute la journée, il revient. Mais nous, je quitte ma maison, je suis venu ici en voiture. Et donc pourquoi ne pas prendre par exemple des mesures telles que désormais, hein, le lundi, il n'y a que des voitures avec une matriculation impaire qui se promène. Le mardi, il y a des voitures avec des matriculations impaires. En fait, une façon de dire aux autres, Botambo la makul. En fait, il y a je veux vous dire, il y a des mesures. Il y en a. Donc, il faut des objectifs.
Dans chaque étape, des mesures appropriées.
Oui, à chaque étape.
Qui se dirige vers la population, et mais aussi les mesures maintenant individuelles vers les hôpitaux,
oui,
les corps
soignants. Voilà. Donc, il faut des perspectives populationnelles, ça c'est pour la population, mais il faut des perspectives aussi individuelles. Alors, dirigées vers des formations médicales, je voulais dire ici, qui ne contiennent que les 30% des personnes vivant avec le diabète. Et d'ailleurs, même un peu moins, parce qu'il y en a qui vont carrément dans les églises, il y en a qui vont vers la médecine traditionnelle. Oui. Donc, on ne peut pas polariser tous les efforts vers les formations médicales. Mais pour votre information, vous savez, il y a une étude qui a été faite en Occident pour essayer un peu de dire, mais qu'est-ce qui peut permettre de réduire la mortalité? Ils ont pris un monde idéal où le système de santé est vraiment impeccable, avec tous les spécialistes qu'il faut, avec toutes les formations médicales qu'il faut. Mm-hmm. Au fait, la mortalité n'a été réduite que de 11%. On prend un deuxième monde où le système de santé est bafoué, mais avec un environnement impeccable, les routes, etc. La mortalité a été réduite de 19%. On prend un troisième monde où il y a un changement de style de vie. Changement de style de vie, mais le système de santé est un peu bafoué. La mortalité réduite est de 43%. En fait, je ne veux pas. Je vous dis que c'est affreux. Et d'ailleurs, vous savez que l'auteur va terminer. Qui va nous dédonner de cette espèce de magie du système de santé où tout le monde se polarise sur le système de santé? À partir du moment où le changement de style de vie, voilà, personne ne peut faire. Donc voilà, un peu en résumé.
On va écouter les deux derniers auditeurs de cette émission. On revient à vous pour la conclusion. Radjabou, vous êtes à Kindo. Bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour à la radio Capi. Bonjour à l'invité.
En une minute, Radjabou, on vous écoute, oui.
J'ai des questions que j'ai réservées. J'aimerais savoir, est-ce qu'il peut y avoir des moyens, je dis, pour s'imprégner des diabètes qui n'est pas d'origine héréditaire?
Y a-t-il des mécanismes? Voilà, si vous voulez savoir s'il y a des tests pour qu'on découvre, qu'on découvre qu'on a un diabète qui n'est pas d'origine héréditaire. Merci. La deuxième question?
Ma deuxième question est celle de savoir, est-ce qu'il peut y avoir des conseils? Quels conseils que l'invité peut me donner pour que je puisse donner à un diabétique? Et pourquoi je dis ça? Parce que mon père d'abord c'est un diabétique. J'aimerais savoir, est-ce qu'il peut y avoir des conseils que je peux proposer à mon père? Parce qu'il se juge en priori parce qu'il est diabétique et il se croit qu'il est candidat à la mort. Moi j'aimerais savoir des conseils que je peux donner à tout moment à mon parent.
Merci beaucoup à Radjabou. Les conseils pour votre père qui souffre du diabète, il pense déjà qu'il va mourir, alors vous avez besoin de savoir quoi lui dire. Nous allons terminer avec vous, Mukendi. Vous êtes à Kananga. On a eu beaucoup d'auditeurs de Kananga aujourd'hui. On sent que les sujets ont beaucoup intéressé la population de Kananga par rapport à ces problèmes de diabète. Mukendi, bonjour.
Bonjour à tout le monde là-bas. Nous voudrons savoir un peu que notre l'invité là nous dise, il a parlé du diabète sexuel. Comment est-ce qu'il se présente? Comment on peut la connaître?
Peut-être que ça a été peut-être mal suivi. On l'a dit, on ne pouvait plus entrer dans les considérations purement techniques. On a posé la question de savoir s'il y a le diabète lié au sexe. Cela veut dire que les hommes peuvent l'attraper sans face. peuvent avoir facilement le diabète que les femmes. C'est peut-être la question qui nous a été posée par notre ami de Bukavu. Merci beaucoup, Mukindi. Nous revenons à vous, professeur, parce qu'on va conclure cette émission. On a eu beaucoup de préoccupations de nos auditeurs par rapport à cela, des problèmes aussi personnels, hein, de ceux qu'ils connaissent dans leur milieu, ceux qui sont malades, ceux qui ont des malades dans leur famille, chacun dans son coin avec ses problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui, la journée mondiale de lutte contre le diabète? Il y a notre ami de Canada qui nous a même dit, on n'en parle pas tellement, on n'en parle pas beaucoup à Kananga, c'est déjà aussi un problème au niveau de notre société. Alors, eu égard à tout ce qui a été dit et toutes les préoccupations des auditeurs, même celui qui veut savoir s'il y a moyen de découvrir que mon diabète ne vient pas de l'hérédité, les conseils à donner à son père, qu'est-ce qu'on peut retenir pour terminer cette émission? Votre conclusion va nous prendre 2 minutes et demie.
Oui, je veux dire que 2% des diabètes, c'est un problème, n'est pas un problème d'hérédité, 2% seulement. Mm-hmm. 98%, c'est un problème d'hérédité. Mais je réitère en disant que l'absence de diabète en famille ne veut pas dire l'absence d'hérédité. Et pour le diabète, il n'y a pas un problème d'hérédité. L'hérédité, là, par exemple, pour le diabète, on appelle diabète de type 1. Là, il y a des marqueurs génétiques aujourd'hui que l'on peut détecter chez des personnes pour dire, voilà, la personne est plus... Ça, ce sont des études hautement scientifiques dans nos milieux. Donc, la présence des marqueurs génétiques, HLA. Donc, on peut dire que, voilà, cette personne est particulièrement prédisposée à tel ou tel. Donc, mais par rapport au diabète, où il n'y a pas une participation d'hérédité, 2%, là, évidemment, il y a plusieurs types de diabète, il y a plus sous-types. Quelqu'un qui a une maladie du pancréas, par exemple, qui a développé une malnutrition à l'enfance, à la longue, il a une maladie du pancréas, peut avoir un diabète, qui n'a rien à voir avec l'hérédité. Quelqu'un qui a reçu des médicaments pendant longtemps qu'on appelle des corticoïdes, ou en infiltration dans les genoux, ou peut-être des corticoïdes, ou des pilules contraceptives, peut avoir le diabète un jour. Mais je ne veux pas entrer dans tous ces détails, parce que ça, ce sont des particularités. Comme je m'adresse à la population, je suis beaucoup plus dans le diabète qui intéresse la majorité des personnes. Mais il y a une question là, quelqu'un m'a posé une question, la dernière question c'était sur quoi?
Oui, il a voulu savoir par rapport au diabète lié au sexe, il a posé la question sur le diabète
répète,
sexuel. Oui.
Il n'existe pas de diabète qu'on appelle diabète sexuel. Je répète, il n'y a pas de diabète qu'on appelle diabète sexuel. Mais il y a une forme particulière de diabète, c'est à peine 0,01%. 0,01% des diabètes liés au sexe qu'on appelle diabète mitochondrial. Et donc, là, pour aller, il faut une étude de l'ADN mitochondrial pour aller dire que voilà, cette personne a ça. Il faut une étude beaucoup plus approfondie. C'est pas par la glycémie que l'on prélève, etc. Donc, ce n'est pas par rapport à ça. Enfin, mais comme dans la plupart d'interventions, les gens voulaient que je sois beaucoup plus focalisé en milieu hospitalier. Donc, des perspectives individuelles. Je vais dire un mot en disant, voilà, le diabète apparaît chez quelqu'un parce qu'il y a eu l'union entre l'héritage et le changement de style de vie. La prise en charge aujourd'hui doit passer par la désunion entre l'héritage et le changement de style de vie. Et donc, vous avez Monsieur Jean qui habite le quartier, qui jusque-là est célibataire, n'y a pas de problème. L'hérédité habite ton corps humain, jusque-là qui est célibataire, n'y a pas de problème. Depuis que Monsieur Jean a épousé cette femme qu'on appelle Henriette, ils ont mis au monde un enfant qu'on appelle Paul, un grand voleur dans le quartier. Depuis que l'hérédité a épousé cette femme qu'on appelle Chalmé de Stilévi, ils ont mis au monde un enfant qu'on appelle le diabète, un grand voleur dans le quartier qui met le corps à feu et à sang. Les yeux, les cœurs, le rein, les pieds, le sexe, etc., etc. Mais maintenant, aujourd'hui, voilà la solution, comme on la trouve. Depuis que on a arrêté Paul en flagrance, donc on a arrêté la main dans le sac en train de voler, on a voulu l'amener à la police. Et quand on arrive à la police, on dit à la police, monsieur le policier, voici Paul, un grand voleur, résous-nous le problème. Mais écoutez, le fouet ne va pas les diluter, pratiquer la circoncision, parce que le vol est dans les cœurs, sa conscience.
C'est un langage imagé, professeur.
Exact.
C'est
très important pour que les gens comprennent, parce que les gens qui pensent que la guérison, c'est avec l'insuline, avec les daonil, qui comprennent que le fouet ne va pas les permettre à coup sûr que voilà, en rentrant le quartier, fini les vols. D'ailleurs, on va conclure en lingala, pourquoi aussi, on l'a beau arrêter, mais il continue à voler. Or, il fallait que l'évangile traverse son cœur pour qu'il abandonne définitivement les vols. Ici aussi, le diabète, oui, vous avez beau donner les daonil, mais c'est pas ça la solution, c'est un policier. Vous avez changé la forme des daonil, non, il faut les... Mais hélas, il faut absolument aller provoquer les divorces chez les parents. Donc, pour que le chemin de style de vie parte, l'hérité reste seule, premier avantage, les autres enfants méchants ne vont pas naître. Deuxième avantage, celui qui est né va attraper le kwashiorkor, laisser le corps humain. Hein, tranquille, voilà, en résumé, de façon imagée.
Merci, professeur, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à nos auditeurs que nous vous avons reçu dans ce studio, bien sûr, pour parler des diabètes. Vous êtes spécialiste en santé publique, en médecine interne. Vous enseignez la diabétologie à l'université de Kinshasa, mais vous êtes membre du groupe d'experts africains sur le diabète. Et nous disons aussi merci aux auditeurs. Ils ont été très nombreux à écouter cette émission. Parole aux auditeurs et aussi à intervenir. On va se retrouver demain jeudi à 11h, 3 minutes pour notre numéro des paroles aux auditeurs. Recrudescence des cas d'accidents de circulation routière à Kinshasa. Entre janvier et août 2012, environ 280 personnes ont perdu la vie et 3000 autres ont été blessées dans les accidents de circulation seulement dans la ville de Kinshasa, où la Commission nationale de prévention routière dit avoir enregistré plus ou moins 1800 cas d'accidents, soit une augmentation de 30% par rapport à l'année dernière. Cette question mérite qu'on s'y penche avec vous demain jeudi. Que proposez-vous pour réduire les cas d'accidents de circulation, que ce soit pas seulement à Kinshasa, mais à travers le pays? C'est notre sujet des paroles aux auditeurs demain. Vous avez été très nombreux, nous vous disons tous merci. Vous allez suivre cette émission en rediffusion ce soir à 20h, 3 minutes, heure de Kinshasa, mais aussi sur www.radiocapi.net. Merci à Titi Mpoutou, Lady Kachala, Hérité Sidiakela, Nicole Ngaka, toute l'équipe qui nous aide à produire paroles aux auditeurs de ces jours. Au revoir. Mais ne vous déplacez pas parce que le programme continue sur Radio Capi.